Alors j'étais très content parce que c'était le département que j'ai préféré, mais on peut pas toujours imposer ses préférences. Alors c'est une discussion commune pour moi. La formation et la culture, c'était des choses qui m'intéressaient. Franchement dit, j'étais pas le spécialiste du domaine, de la culture un peu, mais de la formation beaucoup moins. Et finalement, j'avais aussi beaucoup de respect devant une tâche qui est très très large, de l'école enfantine jusqu'à l'université, de l'école francophone jusqu'à à la conférence des directeurs de l'instruction publique suisse. Donc c'est très large comme thème, mais j'étais très content.
Bernard Poulvert, vous étiez très apprécié des enseignants. On vous propose d'écouter Peter Gasser, co-président du syndicat des enseignants francophones bernois.
L'excellence de son travail a été unanimement reconnue et évidemment que nous sommes les premiers à devoir regretter que quelqu'un qui était autant à l'écoute de sa base veuille nous quitter, malheureusement.
Bernard Poulvert, quand on est apprécié comme ça, c'est plus facile de prendre sa décision de partir?
Je suis en train de me demander depuis le début de l'émission, quand on entend des propos comme ça, je me demande est-ce que j'ai fait tort de partir puisque les gens ont tellement apprécié. Mais c'est touchant, c'est fou. Mais en même temps, vous savez, en politique, il y a un temps qui est à votre disposition. Il faut partir avant qu'on pense soi-même qu'on est irremplaçable. Quand j'ai commencé, Mario Anonima a donné le clé de ce bureau. Je savais que ce bureau, il est maintenant en moi, en quelque sorte, pour 4 ans, 8 ans, 12 ans, j'en sais rien. Mais qu'il y a un moment où il faut finir. Et ça, c'est... Ça, bon, pour répondre à votre question, ça facilite parce qu'on pense on a bien fait, il y a des reconnaissances. En même temps, ça touche et ça fait de la mélancolie, c'est vrai.
Vous étiez également aimé des francophones grâce à votre connaissance du français, de sa culture. On retrouve Peter Gasser.
Le côté en plus francophile, parce que c'est ça qui est extraordinaire. Il ne faut pas oublier quand on est bilingue, hein, deux systèmes différents, et il faut être à même de sentir ces différences et de ne pas vouloir imposer quelque chose dans une des deux parties, parce que justement, ce sont deux écoles différentes. Et ça, Bernard Poulvert l'avait admirablement compris, mais je suis persuadé qu'on pourra continuer ainsi, et de toute façon, le syndicat va y veiller, évidemment.
Cette double culture au sein du canton de Berne, c'est en plus pour certains, un frein pour d'autres. Quelle différence fondamentale vous avez pu observer dans les deux cultures d'enseignement ?
C'est vraiment bonheur, ces différentes cultures, mais c'est vrai que c'est si vous voulez, une surcharge, une plus-value d'une part, mais aussi une charge plus grande de travail, parce qu'il faut comprendre les deux systèmes. Et il y a des différences dans la pédagogie, par exemple, qui est en Suisse romande, je crois. On voit peut-être la différence le mieux avec le nom qu'on donne au début de la scolarité, l'école enfantine et le jardin d'enfants pour les alémaniques. Donc, peut-être chez les alémaniques, il y a plus une idée de culture, de jardin, laisser pousser les jeunes, se développer sans trop les influencer. L'école francophone a plus d'idées comment on peut leur apprendre dès le début vraiment des choses intéressantes. Et les deux approches ont chacune ses valeurs. Et je crois qu'il n'y a pas une qui est vraie et l'autre qui a tort. Mais comprendre ces différences qui vont continuer, par exemple, le rôle des notes, le rôle des rapports d'évaluation, il est différent dans la partie francophone que la partie alémanique. Mais au fond, quand on va quand même dans les discussions très loin avec les enseignants, avec les directeurs d'école, à la fin, on voit quand même au fond. Le fond est commun. Et je crois que discuter de ça et voir où est le fond commun, ou disons, ce qui nous réunit, ça c'était des processus assez impressionnants.
Durant vos 3 ans, vos 3 mandats à la tête de la DIP, quels sont les plus gros changements auxquels vous avez dû faire face, peut-être les plus gros travaux ?
Alors, quand j'ai commencé, il y avait une stratégie de formation avec des pages et des pages de projets pour l'école obligatoire, mais aussi le secondaire 2 et les hautes écoles. Moi, j'ai essayé d'arrêter quelques-uns, mais de les réaliser. C'était des projets bons, mais les gens avaient un peu marre de trop de réformes. Mais néanmoins, je dois quand même dire que les réformes en cours étaient des réformes positives. Par exemple, l'école à journée continue, que l'école devient plus favorable à la famille, c'était très important, et ça, au début, on l'a fait. Réaliser l'intégration des élèves avec difficultés. Il y avait 400 classes spéciale dans notre canton. Maintenant, il n'y en a que 200. Je crois qu'il y avait une séparation trop forte. Après, on a introduit l'école enfantine obligatoire de 2 ans. Il inclut aussi la possibilité du cycle élémentaire. On a introduit le plan d'études romand. C'était donc un plan d'études commun pour les cantons romands. Avant, chacun avait son plan d'études. Et les gens ont demandé que quand même les régions linguistiques ont un plan d'études commun. Donc ça, c'est quand même des choses... pas des changements profonds, mais quand même des développements dans une direction que je trouvais bon. Et ce que je m'en félicite, c'était qu'on a pu faire ça ensemble avec les enseignants et qu'il n'y avait pas de protestation ou de résistance. Donc ça, c'était peut-être le plus beau résultat de ces trois législatures, que ça, on a pu faire ça ensemble.
Nathalie Imboden, coprésidente des Verts Bernois, a même dit que vous êtes le père de l'école à journée continue. C'est une étiquette qui vous plaît ?
Ah oui, parce que quand j'ai commencé, j'ai trouvé qu'il y a tellement de raisons pour installer des écoles à journée continue, pas de manière obligatoire pour tous les élèves, comme on a par exemple dans les pays scandinaves. C'est pas ça. Mais tous les parents qui veulent doivent pouvoir avoir la possibilité de recourir à de tels services. Et je crois qu'on est arrivé avec une solution bernoise qui tient la route. Vous savez, si on veut que les femmes et les hommes soient vraiment égaux en droit et dans les réalités, ça c'est un des éléments les plus importants. Si on veut promouvoir la famille, il faut donner la possibilité d'avoir des enfants et pouvoir travailler. Ça c'est la clé, et c'est aussi la clé du développement économique d'une région. Donc pour moi, c'était vraiment des raisons très importantes de développer ça. Heureusement qu'il y avait une initiative populaire quand j'ai commencé qui donnait la pression là-dessus, mais j'ai appris qu'on a pu faire ça à l'unanimité au Grand Conseil. Donc des choses comme ça, c'était des moments très forts de ces 12 ans.
Autre sujet, l'information a été rendue publique hier. Le CEF Commerce à Tramelan devra fermer l'une de ses classes de maturité professionnelle à la rentrée prochaine, due notamment à une baisse de fréquentation qui est remarquée dans l'ensemble du canton. Comment vous l'expliquez ?
Alors ça, c'était quelque chose qui m'a accompagné toutes ces 12 ans et qui vont accompagner le prochain directrice et le directeur d'avant. C'est quand il n'y a pas les effectifs. Quand nous n'avons pas assez de jeunes, d'enfants dans les régions, parfois il faut fermer une école. Et ce n'est pas la DIP ou la commune qui en est l'auteur ou le responsable ou le bouc émissaire. Mais c'est parce que les effectifs, la démographie, c'est comme ça. Par exemple, maintenant, nous voyons qu'il y a certains types de formations de commercial qui sont moins demandées. Parce qu'il y a moins d'élèves, mais aussi parce que d'autres formations sont plus demandées. Alors, on ne peut pas demander à la DIP qu'elle sorte dans les rues de la ville de Berne, de Bienne et de Delémont pour chercher les élèves et dire « Voilà, vous venez maintenant dans une école, on vous donne ici une place et vous devez venir. » Ce n'est pas possible. C'est le libre choix des jeunes. Et là, parfois, on doit régler le nombre de classes.
Autre sujet d'actualité qui revient fréquemment, le gouvernement a indiqué récemment qu'il n'était pas favorable à intégrer des cours de suisse-allemand de manière obligatoire au secondaire pour les francophones, comme le demandait une motion. Pourtant, si on prend deux exemples, dans la région biennoise, il y a de nombreux parents francophones qui mettent leurs enfants dans des écoles alémaniques ou encore des cours de dialecte qui sont donnés par l'association Arc-en-Ciel pour les petits qui cartonnent. La demande est là, donc pourquoi ne pas décider de l'intégrer, le suisse-allemand, à l'école secondaire?
Il faut toujours distinguer entre rendre quelque chose obligatoire et offrir quelque chose. Et ma philosophie était toujours de rendre possible, d'essayer de motiver les gens, mais de ne pas rendre obligatoire de manière généralisée. Et je crois que là, il y a une grande différence. Le canton de Berne, de manière générale, il est plus libéral dans son politique d'école. Et je trouve que c'est bon, parce qu'il y a un risque de rendre les choses obligatoires. Il y a des défenses, des résistances. Plus les gens sont motivés de faire quelque chose, veulent faire quelque chose, mieux c'est. Alors, nous voulons faire cette offre. Nous l'avons aussi dans beaucoup d'écoles, mais rendre, disons, des cours obligatoires, est-ce que c'est le bon chemin ? Moi, j'en suis pas convaincu.
Alors, la santé des enseignants se détériore. L'année dernière, le syndicat des enseignants romands indiquait dans une étude que 40% d'entre eux seraient en situation de burn-out, ce qui a un impact direct, évidemment, sur les élèves. Alors, Bernard Pouvert, comment remédier à une telle situation ?
Alors ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. Alors ce qu'on a voulu, qu'on a fait, c'est on a mis à disposition des leçons S, comme on les appelle, SOS. Quand un enseignant se sent en difficulté, on peut rapidement le soulager dans ses tâches, s'il y a une difficulté qui est liée à l'école, mais aussi s'il se sent épuisé par l'inspectorat scolaire. Ça peut aller très vite, d'ici quelques jours, quelques semaines, on peut donner des leçons pour le soulager pour qu'il doit moins enseigner. Alors, mais ça, c'est une remède à court terme. À long terme, le burn-out, il a toujours une série de causes, et il faut toujours analyser l'ensemble des causes. Et je crois qu'on ne peut pas dire il y a une raison ou une autre. Je crois qu'effectivement, le métier de l'enseignant, c'est un métier où on s'engage. Vous savez, on va pas à l'école matin. Quand on est malade, souvent les enseignants vont à l'école parce qu'ils savent qu'il y a 20 élèves qui m'attendent, et organiser un remplaçant le soir, c'est plus de tâches que j'y vais moi-même. Et je crois qu'il y a toujours cet engagement très très fort des enseignants pour leur classe, pour leurs élèves, qui est aussi un risque. Qu'on en fait trop, qu'on s'épuise et qu'on met pas les limites. Et parfois, peut-être, il faut aussi aider les enseignants à dire, ici, il y a un moment où je dois mettre les limites, c'est jusqu'ici que je peux. Et peut-être essayer de trouver, on a aux journées des syndicats, il y avait des exposés qui ont montré des manières de voir dans les écoles quels enseignants pourraient être à la limite et comment on peut les aider. Et je crois qu'il faut vraiment, sur le cas, les aider à aussi poser des limites.
Enfin, en quelques mots, quels sont les plus grands défis pour le monde de l'enseignement durant les prochaines années ?
Alors, je crois que le défi le plus grand que nous pensons tous voir devant nous, c'est la numérisation. Et que si on regarde les jeunes qui vont aujourd'hui à l'école, les chercheurs disent que la moitié sera dans des professions dans 30 ans qui n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, est-ce que l'école doit les former pour savoir toujours déjà les réponses aux questions dans 20 ans ? Et je crois que là, les enseignants doivent savoir que ce n'est pas ça. Disons, si on veut montrer maintenant aux élèves le dernier cri de l'informatique, dans 10 ans, ces derniers cris ne sont plus les derniers cris, mais sont vraiment déjà des choses très, très vieux. Donc, l'essentiel, je crois qu'il va être encore plus dans le centre de la discussion, c'est donner aux élèves la confiance en eux-mêmes et en l'avenir, et surtout au processus d'apprendre. Qu'ils apprennent à l'école, apprendre, c'est quelque chose de positif. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y a un changement dans la profession, dans leur connaissance, qu'ils doivent apprendre de nouvelles choses, qu'ils n'ont pas peur, mais qu'ils ont compris à l'école, je peux apprendre des nouvelles choses. Ça peut même faire du plaisir. Et ça, vous pouvez l'apprendre avec n'importe quoi. Disons, je ne veux pas dire que le plan d'études n'est pas important, mais disons, presque on peut prendre n'importe quel élément du plan d'études pour leur apprendre que apprendre, on peut l'apprendre, ou bien apprendre, ça peut être quelque chose de positif. Et ça, si les élèves sortent de l'école avec cette attitude, je peux apprendre des nouvelles choses, c'est la chose la plus importante, et c'est la chose la plus basique depuis 100 ans à l'école. Et c'est ça, avec ça avant tout, qu'on va répondre aux défis de la numérisation.